Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie saison 3, proposé par le Mouvement des entreprises de France. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'academiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième webinaire consacré à l'Europe. On va aujourd'hui clôturer cette session dédiée à l'Europe et qui permet de voir un peu toutes les actions qu'il est possible de mener pour faire du lobbying au niveau européen. Et aujourd'hui, Marie-France, c'est des cas pratiques, c'est ça?
Oui, alors on va essayer, en fait, pour vous dire la vérité, parce qu'on se dit la vérité ici.
On se dit tout.
Quand je suis arrivée avec cette ambition folle de faire 3 sessions, dans ma tête, au moment où je le proposais, c'était clair. Alors, je tiens quand même à le dire devant tout le monde, devant un public averti. Et quand il a fallu le construire, la première facile. Et d'ailleurs, si je peux me permettre de passer rapidement, on va revenir vite fait sur le déjà vu qu'on vous a présenté sur les 2 dernières sessions. Donc la première session, c'est vrai que c'était assez facile parce qu'on revenait un peu sur les fondamentaux et donc là, toute l'équipe avait plein d'idées, donc c'était pas ça qui nous manquait. La deuxième, déjà, je sais pas si vous vous souvenez, on essayait d'être un peu plus pragmatique, on rentrait vraiment dans le lobbying et tout. Donc là, déjà, on était tous mobilisés, mais on avait réfléchi, c'était un peu plus compliqué. Et le troisième, je sais pas quand je l'ai proposé, pourquoi ça me paraissait si évident, parce que quand on s'est retrouvé à vouloir le faire, c'était pas aussi évident que ça. On avait l'impression que parfois on se répétait, donc voilà. Donc j'espère quand même que cette séance va être intéressante pour tout le monde, parce que c'est vraiment le but, hein, c'est qu'on se retrouve tous autour des enjeux européens et de la manière qu'il faut pour le MEDEF et ses adhérents être présents, être forts. Mais bon, j'espère que vous ne serez pas déçus. En tout cas, si jamais ça ne répondait pas à l'attente que vous aviez, c'est une super bonne occasion pour poser des questions. Qui du coup, comme vous le savez, quand on vous envoie grâce à Gauthier et à Céline nos slides, on essaie toujours d'ailleurs d'agrémenter nos slides de petites infos en plus que quand on a eu la question qui mérite d'apparaître. Voilà. Une fois que j'ai fait ces propos, histoire de me disculper si jamais je suis complètement à côté de la plaque, alors rapidement un petit déjà vu. Donc 3 petits rappels. Hein. L'idée, c'est pas qu'on refasse l'histoire. Mais vous vous souvenez, le rappel 1, et je pense que c'était un message important à garder en tête, c'est que à Bruxelles, c'est un écosystème d'interaction entre une multitude d'acteurs. Et quand on voit ce slide, ce que vous avez retenu, j'espère, la dernière fois, c'est clairement que beaucoup d'acteurs, mais quand même au milieu, hein, le backbone du lobbying européen, c'est un conseil qui impulse, une commission qui a le monopole des textes et qui après pose sur la table, aussi bien pour le Parlement et le Conseil, le texte qu'elle veut faire adopter. Et là, il y a des discussions avec un atterrissage sur un momentum qu'on appelle le trilogue. On va décortiquer tout ça aujourd'hui, justement, pour essayer d'être un peu plus précis sur ces actions. Mais toujours pareil, avec des cas pratiques, et c'est pour ça qu'on a appelé ça cas pratique, on a essayé d'alimenter ça avec des cas qu'on a eu à vivre. Et j'espère du coup que ça éclairera un tout petit peu plus le débat que de la théorie pure. Mais on n'a pas pris l'angle de faire un cas pratique qu'on déroule tout le long, parce que d'abord, ça aurait été très chiant pour ceux qui n'auraient pas été dans le secteur de ce cas pratique. Et puis après, ça limitait quand même aussi peut-être les propos. Le deuxième rappel important et qui vient de cette multitude d'acteurs dont on vient juste de nommer, c'est que la diversité d'acteurs, il faut la voir comme une opportunité. Il ne faut pas la voir comme un problème. Et ça, c'est important à Bruxelles parce que vu la diversité des gens, et quand on voit qu'au registre de transparence, on est, d'après le registre, plus de 24 000 lobbyistes en puissance, ça veut dire quand même, bon, je ne dirais pas 24 000 opportunités, mais enfin, il y a quand même pas mal d'opportunités. Donc ce slide, c'était vraiment pour vous rappeler que le message clé de la dernière fois était que la multitude d'acteurs fait partie d'une stratégie. On doit pouvoir se poser des questions de on fait ça pour qui, comment, avec qui, contre qui. Et donc tout ce mapping-là montre bien qu'en plus, il y a des choses qu'on doit un peu, qui nous fait sortir un peu de l'habituel. On peut créer des coalitions, c'est le cas là avec la plateforme électromobilité. On peut aller chercher les NGO, la société civile, parce qu'elle a des choses à dire et parfois... Voilà, société civile, entreprise ne parlent pas le même langage. C'est justement le moment dans une stratégie de vouloir rassembler tout ce beau monde. Voilà. Et le troisième rappel, et c'était pour la petite histoire, je trouvais le slide le plus intéressant parce que c'est un slide qui montrait bien qu'il y avait des gens très intelligents qui s'étaient posés en se disant Où est-ce qu'il faut que je travaille le plus? Donc, hier, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion dans une autre séquence de dire que c'est, ça me fait penser à une sorte d'intelligence des feignants, genre, si je dois faire qu'un truc, je le fais où? Et donc là, on voit bien qu'en effet, avec la courbe, voilà, il y a des moments où c'est un peu mieux. Une fois qu'on a dit ça, on commence un peu le cœur du sujet. Et le cœur du sujet, un petit mot peut-être que je n'ai pas dit la dernière fois, ou si ça s'est dit, ça ne m'a pas perdu, c'est quand vous voyez la timeline en dessous, c'est que dans les textes, en fait, je ne crois pas qu'il y ait d'obligation. Enfin, il y a un début, mais il n'y a pas d'obligation de fin. Et on a dans l'histoire vu des textes qui finissaient gelés au conseil. Donc, c'est important. Donc, le biorhythme est important, mais il n'y a pas une... Ce n'est pas comme dans un film hein, où vous commencez avec le générique et finissez avec un générique.
Il n'y a pas un devoir du résultat.
Il n'y a pas, voilà, exactement. Donc, ça, c'est intéressant quand même à garder en tête. Donc, maintenant, si on passe au cœur de notre séquence aujourd'hui, de notre session, c'est... Je résumerai ça par il faut savoir se poser des bonnes questions. Les bonnes questions, c'est alors je fais ça pourquoi exactement? Je vais le faire avec quel traiteur? Quel est mon contexte? Contre qui je me bats? Avec qui je peux me battre? C'est quoi mes leviers? Et mais au final, je poursuis quoi comme but? Et ça, vous vous souvenez, la dernière fois, on a bien insisté. Un très bon looming, c'est quand vous savez ce que vous voulez obtenir. Sinon, vous partez un peu à la pêche au saumon et vous revenez avec une truite. Et c'est pas tout à fait ce qui est recherché. Donc, une fois qu'on a posé ça, petit propos liminaire. Dans le schéma que je viens de vous présenter en rappel, ça ne vous a pas échappé qu'on commençait au moment où le texte tombait. Donc, le petit schéma là qui est dans le coin vous rappelle ça. Mais il ne faudrait pas oublier, quand on parle de lobbying, qu'il y a aussi ce qu'on appelle la stratégie offensive. Donc, on serait hors de ce schéma. Et c'est important parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent hors de ce schéma. Ce schéma est une stratégie défensive, il y a un texte, il faut agir en plus en amont. Alors, le texte n'est peut-être pas encore tout à fait connu, on est au tout début, on a des consultations, tout ça. Mais dans la stratégie offensive, c'est bien avant ça. C'est qu'on répond souvent à une opportunité business, on impulse la volonté d'avoir un cadre réglementaire, parce qu'on dit tout souvent, oui, mais voilà, le monde de l'économie ou des entreprises est contre le cadre réglementaire. C'est faux, la plupart des entreprises appellent de leur vœu une réglementation. Faut-il encore que cette réglementation soit pertinente et faite de manière bien construite et dans le bon timing? Donc, clairement, quand on a un objectif business et on y reviendra, on peut créer une sorte d'opportunité de réglementation bien en avant, même avant que la commission y ait pensé. Ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie offensive. Et puis, la stratégie défensive, on aura l'occasion là, tout autour, pendant cette demi-heure, de vous la clarifier avec des cas pratiques. Où là, bien évidemment, on est à la fois, on peut être en amont d'une publication quand on est au tout début de ce schéma, ou alors on est carrément au cœur de l'action, les mains déjà dans le cambouis quand le texte est sur la table et qu'il faut essayer de le mettre au plus en phase avec nous. Voilà, une fois qu'on a dit ça, il y a donc deux parties. Il y a le lobbying avant la publication d'un texte, bien avant, et il y a le lobbying, comme on disait, en plat. Et dans le lobbying avant la publication d'un texte, vous avez ce que moi j'appelle le scénario idéal. Alors, Margot va nous parler de ce scénario idéal. Pour ma part, j'ai eu à le connaître une fois, donc je pourrais, si jamais il y avait des questions, y revenir. Mais déjà, Margot, à toi.
Bien sûr. Bonjour à tous. Donc, sur ce scénario idéal, donc, qui se place bien sûr en amont de la publication d'un texte, donc c'est Marie-France l'a effleuré tout à l'heure, c'est quand on a identifié donc une opportunité business qui pourrait nous apporter un avantage concurrentiel et qu'on a envie de réglementer sur ce sujet-là, il va falloir convaincre que la commission. Et donc, pour ça, il faut construire en interne avec nos experts, hein, utiliser l'expertise des différents pôles thématiques qu'on a au MEDEF, un narratif qui servira à initier et à alimenter le débat à venir. Donc ce narratif, bien sûr, il doit être inspirant, hein, parce qu'on est dans une stratégie d'inspiration offensive, donc il doit comporter toutes les dimensions techniques de notre sujet, mais également, et c'est là que c'est assez important, il faut également replacer le sujet dans une dimension économique et sociale pour permettre en fait à la commission d'appréhender les enjeux de ce sujet de façon assez globale. Une fois que ce narratif est prêt, il faut ensuite construire des alliances pour pouvoir porter le sujet. Et c'est là que la notion d'écosystème est clé. Le sujet doit être porté par tout un écosystème, parce que plus on va être nombreux à porter ce sujet, plus on aura de chance à convaincre la Commission de la nécessité d'anticiper et de réglementer sur ce sujet-là. Et là, le choix des parties prenantes avec qui on va s'associer, donc ça peut être des fondations, ça peut être des think tanks, des centres de recherche, d'autres cercles d'entreprises, etc., va être important. Il va falloir, donc là, c'est du ciblage en fonction du sujet sur lequel on va travailler, mais ce choix va dépendre de la portée technique, économique ou sociale de la partie prenante en question. Et donc, comme Marie-France l'a expliqué, donc à chaque type de stratégie, on a voulu l'illustrer avec un cas pratique. Là, le premier cas qu'on a utilisé, c'est l'économie circulaire. Parce qu'il faut avoir en tête que l'économie circulaire constitue depuis très longtemps un enjeu business pour les entreprises. Dès les années 2000, on a de nombreuses entreprises qui se sont mobilisées, qui ont initié l'économie circulaire dans leur activité, parce que c'était une véritable opportunité pour elles de déco-concevoir leurs produits. Ça leur permet de réduire leur empreinte environnementale tout en améliorant leur efficacité économique. Donc, on a beaucoup d'entreprises qui sont mobilisées sur cet aspect-là. Mais ça a été longtemps un sujet assez conceptuel, alors même qu'il a porté de véritables conséquences en matière de technicité, de R&D, d'investissement, etc. Donc, il a fallu intégrer le sujet de l'économie circulaire au cœur du débat public. Et donc, on a certaines entreprises, notamment du secteur de l'automobile, qui se sont mobilisées dessus et qui ont construit des alliances avec notamment la fondation Hélène MacArthur ou encore le European Climate Foundation pour qu'ensemble, elles puissent porter le sujet de l'économie circulaire, porter le même discours auprès de la Commission et amener la Commission à réglementer sur cet aspect. Alors, c'est un travail qui a été long, ça se fait sur plusieurs années, voire dizaines d'années. Mais la Commission a fini par réglementer sur ce sujet, notamment en publiant l'année dernière leurs différents paquets économie circulaire. Et aujourd'hui, à Bruxelles, plus aucune discussion ne se fait sans qu'on parle d'économie circulaire.
Merci beaucoup. En effet, Margot, je pense que c'était important. Et en rebouclage de ça, donc ça c'est le scénario idéal un peu partant de quelque part juste des entreprises qui ont impulsé une dynamique européenne. Un scénario qui se rapproche de ça, mais qui est plus pas dans l'idéal, parce que on sait bien que ça va arriver, mais plutôt qu'on appellerait un scénario anticipatif, mais qui va arriver aux mêmes conclusions, qui est de construire une crédibilité technique que la Commission va être en recherche et va savoir trouver quand elle en aura besoin. Et donc, dans ce scénario anticipatif, c'est qu'on se mobilise un peu en prévision. Alors, en prévision de quoi? C'est tout simplement parce que quand vous faites du lobbying, et tous autour de cette table, je suis sûre, vous connaissez bien vos textes, quand vous êtes dans un secteur particulier, vous avez vos silos et des textes que vous suivez particulièrement. Dans chaque réglementation, il y a déjà une date de péremption, mais on sait qu'il va y avoir une révision dans les quelques années à venir, on sait à peu près positionner, donc en clair, on sait anticiper en fait. Et ça, souvent, je me suis rendu compte, en tout cas moi dans les faits, que bien qu'on saurait le faire, on ne le fait pas toujours. Et justement, ça, c'est la clé, c'est d'arriver. C'est vrai que c'est Marie qui vient de le dire, c'est le travail de long terme, mais je crois que tout est un travail de long terme à Bruxelles, quelque part. Bon, le biorythme de Bruxelles veut que ce ne soit pas rapide. Le réseautage et le changement, on n'a pas eu l'occasion de le dire, mais quand on réseaute autour de gens, on aura l'occasion d'y revenir. Mais les gens bougent beaucoup à Bruxelles. Il y en a un qui est dans une DG un lundi et il peut être dans une autre DG un mardi ou dans un pays, parce que comme la commissaire actuelle bulgare est appelée à des hautes fonctions de première ministre. Donc tout ça pour dire, c'est qu'à Bruxelles, ça bouge toujours. De toute façon, c'est du long terme. Bon, une fois qu'on a dit ça, on se projette, on a un texte. Et là, c'était le cas, en fait, avec la directive type déchets. On savait qu'elle allait arriver à révision. Or, entre-temps, entre le moment où elle a été créée et le moment où on savait qu'à un moment donné, sa révision tombait, il s'est passé un truc de dingue. Il s'est passé que d'un seul coup, l'Europe a basculé dans l'électrification. C'est-à-dire, d'un seul coup, c'était l'électrification à tout prix, il fallait tout électrifier, et les voitures incluses. Or, du coup, émergeait dans une directive déchets qui, jusqu'à présent, n'avait jamais pris en compte ces déchets de batterie de véhicules électriques. C'est les déchets de batterie de téléphone, de genre de choses, mais jamais de batterie électrique. Automatiquement, il fallait qu'ils intègrent ça. Et donc, ce scénario anticipatif de mobilisation en prévision, c'est que tout un secteur s'est mobilisé. Même plusieurs secteurs, une chaîne de valeur à la rigueur, partant du recyclage et autres, s'est mobilisée pour dire « attention, vous nous mettez des ambitions d'électrification, on va avoir un produit qui aujourd'hui est traité dans une directive pas à la hauteur de ces enjeux, puisque autant, je ne sais pas, une petite batterie de véhicule, de téléphone portable, je ne sais pas trop, je ne suis pas dans le business, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait des milliards d'opportunités, à part le recyclage, de réutilisation ou autre. Par contre, des batteries de véhicules électriques, c'est tout un monde qui s'ouvrait devant nous, puisque clairement, vous avez la seconde vie qui n'était absolument pas traitée. Et vu la directive telle qu'elle existait, la seconde vie des batteries de véhicules électriques ne pouvait pas être possible. Puisque vous la traitez du moment où vous la sortez du véhicule, c'était considéré comme un déchet dangereux. Autant vous dire qu'au temps administratif et autres, ça tuait complètement tout business model. Donc ce scénario anticipatif, c'est quoi? C'est un peu les mêmes éléments que Margot nous a donné, mais avec une timeline très personnelle à chaque secteur qui est ne perdez jamais de vue qu'un texte qui vient de paraître n'est pas clos. Il peut potentiellement commencer une nouvelle vie dans quelques temps. Ce ne sera peut-être pas avec vous, parce que vous aurez changé de poste, mais il faut des outils qui permettent d'avoir ce suivi et cette anticipation au sein de l'organisation auquel vous appartenez. Parce que c'est fondamental et qu'entre deux dates, il peut se passer des renversements sociétaux qui fait qu'un sujet ne sera pas du tout traité de la même manière en 6-10 ans. Donc, c'est très important d'alimenter toujours ça. Et c'est pas le lundi d'un seul coup où vous retournez pour voir qu'est-ce qui s'est passé les 10 dernières années et qu'est-ce que vous pourriez argumenter sur. Non, si vous l'avez construit petit à petit, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Et donc faire entrer le sujet dans le débat public était une évidence. Et bien évidemment, comme je disais en début, dans les outils qui peuvent être utilisés au-delà du débat public, et j'en finirai là. Dans la multitude d'acteurs, en introduction, on a bien insisté sur le fait que c'était des opportunités. Et là, cet exemple est parfait. C'est-à-dire que quand on est arrivé avec la volonté de mettre juste une reconnaissance quelque part de la batterie de véhicule électrique, la commission n'était pas encore dans son projet de texte. Elle voyait ça plutôt comme ça reste une batterie, donc arrêtez de nous embêter. Il a fallu qu'on mobilise le gouvernement français et le gouvernement néerlandais, qui voulaient être champions sur ce sujet-là et qui étaient quand même ceux qui étaient le plus moteurs dans tout ce qui était batterie, véhicule électrique et électrification. Du coup, ils ont accepté de faire un partenariat public-privé, des entreprises du secteur privé avec eux, avec une belle signature à la Commission, qui du coup, poussée par deux États membres assez importants, ont accepté de jouer le jeu et a été créé l'Innovation Deal. De cet Innovation Deal, il y a eu des fonds européens qui ont été donnés afin que les partenariats privés, aidés par le public dans le fond, arrivent à faire émerger un document de plusieurs dizaines de pages, où tous les freins au développement et à la reconnaissance de la batterie électrique comme un asset et pas comme plutôt un déchet émergent. Et aujourd'hui, quand vous regardez les documents liés à la directive déchets, vous voyez qu'en fait, tous les documents initiateurs sont les documents de cette Innovation Deal. Donc, c'est-à-dire que c'est le privé qui a rédigé ces documents qui ont inspiré la réglementation. En tout cas, sur ce sujet-là, sur ce micro-sujet-là, mais qui est important pour l'industrie. Donc, le scénario anticipatif comme le scénario inspiratif est vraiment ça, un peu dans l'idéal. Ouais.
Donc, c'est deux types de scénarii. Toi, lobbyiste européenne, tu peux aussi aller voir des parlementaires néerlandais.
Bien sûr.
Et pas que les parlementaires européens, en fait.
Absolument. Non, mais c'est fondamental. Ce que je dis, c'est que justement, là, le MEDEF est en train de se construire pour être, oui, les entreprises de France. Mais les entreprises de France sont aussi des entreprises qui ont des intérêts économiques un peu partout et surtout parfois détiennent un savoir-faire qui va jouer sur tout le territoire européen. Donc on a intérêt à faire des alliances comme ça, sinon on ne peut pas. Je vais passer la parole deux secondes aussi à Marie-Christine, parce que Marie-Christine avait, on parle là des entreprises, mais il y a aussi les territoires. Et on a une actualité qui montre qu'il y a aussi des actions de ce côté. Marie-Christine.
Merci Marie-France, bonjour à tous. Effectivement, tu as parlé opportunité business, mais c'est aussi souvent comment porter une opportunité du développement économique de nos territoires. Comme je sais qu'il y a beaucoup de MEDEF territoriaux qui participent aujourd'hui, je voulais juste vous donner, faire un petit focus, un petit exemple. Oui, les MT aussi peuvent être des acteurs et des acteurs jouer le plus en amont possible. Très rapidement. Les matières premières aujourd'hui, tout le monde en parle. Au niveau gouvernement, au niveau des entreprises, au niveau de la Commission européenne. Si je prends un simple exemple, parmi tous nos territoires français, nous avons des territoires qui en sont pourvus. Pour l'instant, la Commission européenne n'a pas encore totalement intégré ce territoire dans sa cartographie. Donc, il est important de dire clairement à la Commission européenne: oui, il y a la France métropolitaine, mais pas que. Donc, il faut à tout prix que, et c'est très très en amont qu'on fait passer ce genre de discours, il faut que la commission en tienne compte dans sa cartographie. Deuxièmement, on a des entreprises innovantes et il faut le faire savoir. Nos entreprises innovantes sont vertes. De toute façon, aujourd'hui, à Bruxelles, tout ce qui n'est pas vert, ça passe pas comme discours. Donc, entreprise verte, neutralité carbone, tout ça, ce sont des sujets qu'il faut porter. Et donc, voilà, c'est simplement pour faire un petit focus. Oui, opportunité business, mais il y a aussi naturellement à faire passer des messages très clairs, très clairs auprès de la Commission européenne, mais pas que, hein, même si on est très, très en amont, pour leur dire, voilà, regardez, demain, nous avons des entreprises sur nos territoires qui sont capables de produire, d'extraire et de certaines matières premières de façon durable. Voilà, c'était juste un petit focus pour faire le pendant entre le côté business et le côté développement économique. Et vous allez le voir naturellement, l'objectif, c'est de ne pas faire que du one shot et donc de faire perler ces actions au niveau de l'ensemble des institutions européennes. Voilà.
Merci Marie-Christine. Non, c'est important parce que c'est vrai que là, le MEDEF, c'est les entreprises, mais le MEDEF, c'est aussi beaucoup, beaucoup de MEDEF territoriaux et de MEDEF régionaux. On le sait puisqu'on en reçoit parfois, on a la chance d'en recevoir parfois à Bruxelles et les régions hein, sont représentées aussi à Bruxelles. Et l'idée, ça serait d'arriver à mettre en avant quand on dit business, le business, il peut être le business d'une région ou d'un territoire comme le business d'une entreprise, ou même le business d'une entreprise doit embrasser ou souvent se fait dans un territoire. Donc les deux, on reboucle toujours et je pense que c'était important de montrer que l'actualité montrait que, voilà, parfois il y avait aussi des attentes de ce côté-là. Et comme disait Marie-Christine, c'est aussi du long terme par rapport à ça et ça se construit et on doit aussi paraître comme des gens qui apportons ce savoir divers. D'entreprises, de territoires, le maillage et autres, donc ça c'est important.
Et puis il y a des territoires transfrontaliers aussi.
Ah mais complètement, absolument, absolument. Donc tout ça c'est partie d'une grosse stratégie. Alors bien sûr on est toujours avant le texte, donc là on est dans une stratégie qu'il va falloir qu'on travaille très fort, parce que je pense, ce que moi j'appelais avant, mais ce que j'appelle aussi maintenant, et les équipes trouvent ça toujours très drôle, mais c'est ce que j'appelle le kit glamour. C'est-à-dire, on doit être capable de ne pas aller voir les gens que quand on a des problèmes. Donc, on doit être capable de leur montrer aussi qu'on est apporteur de solutions, apporteur de vision et qu'on est sur du long terme. Et ça, c'est très important et je pense que les régions ou les territoires en font partie et c'est fondamental. Alors, si on continue, une fois qu'on a parlé de ce scénario anticipatif et pour un peu clôturer le avant les textes, il y a un scénario qu'on a appelé constructif où là, on sait que la proposition arrive et on se mobilise et Pauline va nous en parler.
Fait. Donc, on est toujours en amont de la publication d'un texte et cette fois-ci, il y a un biorhythme qui, dans le cas pratique qu'on a choisi, est plus rapide que le biorhythme bruxellois habituel puisqu'il s'agit de la réforme du marché de l'électricité. Donc, vous en avez probablement entendu parler puisque, naturellement, l'accès à l'énergie et le prix de l'énergie, c'est un enjeu qui est toujours d'actualité hein, dans la vie économique, également dans la vie sociétale de façon générale. Donc, le MEDEF est tout de suite mobilisé sur un sujet comme la réforme du fonctionnement du marché de l'électricité. Donc, au début, on va naturellement initier en interne des échanges avec les experts et les adhérents pour être en position d'alimenter une prise de position non seulement technique, puisqu'il faut avoir des éléments sur le fond, mais également politique, puisqu'on a ensuite une présidence du MEDEF qui, en l'occurrence, est allée échanger avec la présidence de la Commission européenne, mais également avec la DG en charge de cette réforme-ci. Une position qui a été partagée auprès d'autres patronats européens, puisque les questions énergétiques sont toujours sujets à de forts débats au niveau technique, mais surtout politique, ne prenant que l'exemple de l'accès à l'énergie décarbonée, donc le nucléaire, qui est une position que la France défend à Bruxelles et qui peut parfois être source de tensions avec d'autres États membres. Donc, on vous a rappelé la liste de tous les leviers nécessaires pour cette mobilisation-là. Donc, le GT Market Design du MEDEF a été initié en amont de la proposition législative et a continué tout au long, et continue encore d'ailleurs, tout au long du process législatif, de mobiliser des acteurs assez divers pour continuer d'alimenter à la fois la position politique du MEDEF sur le sujet, mais également être en mesure d'apporter des éléments de fond, donc que ce soit auprès d'eurodéputés français, mais également d'autres nationalités, puisque comme l'a rappelé Marie-France, on ne travaille pas exclusivement avec des parlementaires français à Bruxelles.
Oui, merci beaucoup, Pauline. Je pense que c'est important, parce que le marché de l'électricité, c'était une idée de Pauline de le mettre. C'est quand même une actualité. Je pense qu'elle l'a souligné à un rythme jamais vu, mais en même temps, c'est une réponse à une crise. Donc souvent, il y a beaucoup de détracteurs de l'Europe qui disent que ça va pas vite et tout. Oui, c'est vrai qu'il y a tout un processus de compromis, donc ça ne se fait pas sur un claquement de doigts. Mais là, on a montré que l'Europe était capable de se mobiliser très, très vite. Par rapport à nous, acteurs du lobbying, ben là, pour le coup, ça nous a... ça nous a un peu plu, mais on ne s'y attendait pas aussi vite, donc il a fallu se mobiliser très vite. Et là, la réaction du MEDEF a été extrêmement rapide. Avec la création de ce GT, on s'est mis en force de proposition très vite. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder si on reprend sur ces trois scénarios. On doit être force de proposition. C'est ça, cette période avant les textes, hein. C'est qu'on a donc tout un panoplie d'identification d'opportunités, qu'elles soient business, qu'elles soient temporelles avec une réglementation carrée, qu'elles soient de l'actualité où on sent qu'il y a une crise et il faut l'encadrer. Bim, hop, force de proposition. Voilà. Donc, si on devait vraiment résumer ça, c'est comme ça. Et cette force de proposition, encore mieux, ça doit être notre quotidien universel, Madame Vaucher. Vous êtes d'accord, j'espère.
Bonjour à toutes et à tous. Donc je poursuis sur cette lancée-là. Effectivement, l'information, finalement, la data, comme on pourrait dire, c'est quand même le sujet clé, surtout pour une organisation, je dirais, patronale. Et une enfin, qui a, voilà, et avec ses fédérations et ses secteurs, énormément d'informations qui remontent de ses membres. Et il faut sans cesse alimenter, en fait, la Commission européenne avec des données. Alors, ces données, je me permets quand même de dire qu'il faut effectivement pouvoir fournir des informations, mais des informations fiables. Voilà, des informations fiables. J'insiste sur ce point. Parce qu'on peut donner des informations, mais si elles sont un peu bidons et un peu de mauvaise foi, on ne pourra pas être un bon lobbyiste sur la durée, encore une fois. Parce que ça marchera un coup, mais ça ne marchera pas deux. Et on perd la relation de confiance qu'on essaye de construire avec nos interlocuteurs à Bruxelles. Donc ce point, effectivement, n'est pas indiqué, mais j'insiste sur la fiabilité des informations à fournir. Alors, des informations sur quoi? Ça peut être aussi bien des informations chiffrées, ça peut être aussi des informations sur les pratiques des entreprises, c'est des informations sur aussi la législation nationale et les nouveautés, quand il y a eu des innovations dans nos législations nationales, et les outils qu'on va utiliser pour faire remonter, transmettre ces informations à la Commission européenne sont multiples. Ça peut être effectivement les consultations publiques qu'elle organise, qui sont donc des questionnaires, hein, en fait, auxquels on répond. Ça peut être des auditions, je l'ai indiqué particulièrement pour la matière sociale, où en matière sociale, à chaque fois, en amont du texte, les partenaires sociaux européens, donc d'un côté le patronat, de l'autre les syndicats, mais on est ensemble consultés sur des projets de texte, soit par écrit, soit aussi lors d'auditions orales. Des études d'impact et bien sûr des rendez-vous. Alors, je vais donner quand même un exemple. Alors, là, je vais commencer par un exemple qui n'est pas indiqué, mais par exemple, il y a eu récemment une directive qui a été discutée sur la transparence de rémunération entre les hommes et les femmes. Dans nos échanges avec la Commission européenne en amont, le MEDEF était intervenu et avait parlé de l'index égalité pénico, en fait, c'est-à-dire un outil, en fait, de transparence des rémunérations qui existait déjà en France depuis 3 ans, que les entreprises avaient mis en œuvre et qui, du coup, sur lequel finalement on a échangé avec la Commission pour leur dire, bah, écoutez, voilà, qu'est-ce qui marche? Pourquoi ça marche? Quelles sont les clés de succès d'un outil qui imposerait, mais au niveau européen, de la transparence dans l'innovation? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et comment on a procédé? Et comment on s'est investi sur le sujet, etc. Voilà, on a transmis pas mal d'informations. Bon, je dois dire, avec un succès d'estime un peu limité, puisque la Commission européenne n'a pas repris une grande partie de nos points, ce qui aboutit à une directive pas tout à fait comme on le souhaitait. Mais bon, en tous les cas, il faut toujours persister et continuer dans ce sens. Mais c'est voilà, c'est ce genre d'informations qu'on essaie de faire remonter. Alors, j'ai pris un exemple que j'ai un peu plus développé, qui est un exemple tout à fait actuel sur lequel je travaille, qui est une ré future révision d'une directive sur les comités d'entreprise européens. Donc pour les non-experts en matière sociale, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que c'est qu'un comité d'entreprise européen? C'est comme un comité d'entreprise, donc comme toutes les, obligatoire dans toutes les entreprises françaises de plus de 50 salariés, mais c'est au niveau européen. Donc, c'est une entreprise qui a déjà une taille européenne et qui peut, ce n'est pas une obligation, mais peut mettre en œuvre, peut créer cette instance de dialogue social. Voilà. Et pourquoi c'est très important pour les entreprises en France? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont joué le jeu du dialogue social et qui ont créé une telle instance de dialogue. Et là, on est très en amont de la révision, puisque sur ce point particulier, l'initiative, bizarrement, n'est pas venue de la Commission pour l'instant, mais elle est venue du Parlement. Peu importe, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des échanges, bien sûr, avec le commissaire Schmitt, qui suit ce dossier, et sa direction générale de l'emploi. On l'a invité à un webinaire sur ce sujet, où on a justement fait valoir les pratiques des entreprises sur ce point, avec des interventions de groupes français, allemands, suédois, italiens. On a rédigé un courrier commun, on a créé un groupe dédié à la fois au niveau national avec des grands groupes français, mais aussi au niveau européen pour avoir justement une diversité de secteurs, une diversité de pratiques, une diversité d'interlocuteurs. Et puis, on a aussi participé à une étude qui avait été lancée, parce que souvent la Commission européenne, et peut-être j'aurais dû le remettre aussi dans les leviers, utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup de consultants, beaucoup d'experts et de consultants pour faire des rapports sur des sujets sur lesquels elle va ensuite baser sa proposition de texte. Voilà, donc il est toujours, et c'est d'ailleurs une partie assez importante, je dois dire, de notre travail, important de répondre à la fois, donc, comme c'est cité, aux consultations publiques, aux questionnaires, aux consultants extérieurs, à toutes ces, finalement, ces outils qui sont utilisés pour faire, pour faire remonter l'information sur laquelle va se baser ensuite la commission pour intervenir, pour son texte, voilà.
Merci beaucoup, Anne. Alors, c'est vrai que là, je pense que tu as levé un point qu'on n'a peut-être pas pris assez de temps de le dire dans les deux autres sessions, mais qui sont, tu as utilisé le mot fiabilité, moi j'irais même plus loin, il est en phase, mais c'est le mot crédibilité, du coup, associé à la fiabilité. Et je ne peux que insister là-dessus, parce que comme le disait Anne, et c'est bien ça, hein, tout le sujet de notre quotidien universel, c'est avant tout d'être une source d'information reconnue. Alors, la commission, c'est pour vous montrer que, à la rigueur, c'est la commission tout le temps parce que justement on l'alimente et autres, mais c'est justement quand on se pose la question de la diversité, on va voir qui à la commission, alors qui solliciter, là on vous a mis les commissaires, alors en général les commissaires c'est quand même un niveau, c'est tout le monde rêve de voir les commissaires, quand vous dites que vous allez à Bruxelles, vous allez voir les commissaires. Alors moi je vais vous raconter une petite histoire parce que je la trouve très bien et j'espère qu'il ne m'en voudra pas si ça revient à ses oreilles. Première fois j'ai dû organiser une visite de M. Jean-Dominique Sénard à Bruxelles. J'avais prévu 5 directeurs généraux et mon chef de l'époque me disait « Mais des directeurs généraux au niveau de M. Jean-Dominique Sénard, mais vous n'y pensez pas, il nous faut des commissaires. » Et là, je lui avais dit « Oui, mais je ne vois pas bien l'intérêt parce que vu les sujets, nous, c'est les directeurs généraux. » Hein, donc, il m'avait dit « On annule tout. » Mais M. Sénard a quand même demandé à voir le programme et quand je lui ai amené le programme, la première chose qu'il m'a dit, c'est « Mais c'est un très bon programme, ça, on va voir les gens qui font. » Parce que si vous voulez que je vous raconte la dernière fois que j'étais à Bruxelles où sont nommés, et là pour le coup je ne le nommerai pas, le commissaire, j'ai bien senti que pendant toute l'entrevue, il attendait juste le moment où on allait faire la photo ensemble. Donc tout ça pour vous dire, c'est que oui, les commissaires sont importants, il ne faut pas les négliger, je pense que Marie-Christine sera d'accord avec moi là-dessus, mais ce n'est pas là où vraiment le travail se fait. Il faut utiliser les commissaires quand on est dans un niveau politique, où là, il y a réellement à impulser quelque chose, parce que le dossier sensible, parce que maillage, même avec les États et autres. Mais vous n'allez pas avoir des commissaires comme ça. La logique veut plutôt qu'on rencontre justement ceux qui font. Et dans ceux qui font, on voit bien qu'il y a toute une pléthore d'acteurs. Et dans ces acteurs, il y a pas mal de choses. Là, on vous a donné un exemple de la DG Group, mais vous voyez en bas qu'il y a du personnel qui est même dédié à des agences. Pourquoi? Parce que quand on parle justement de sollicitations de gens importants, dans l'ordre, souvent on les oublie, mais les policy officers de chaque DG sont les gens les plus importants, c'est eux qui ont le stylo. Et alors ces gens-là, ils ont beau avoir une hiérarchie qui parfois monte jusqu'à plus 5,
ils ont toujours le stylo. Donc en fait, avant que ça remonte au plus 5, eh ben, ils ont eu le temps d'écrire pas mal de trucs. Et quand ils ont déjà écrit pas mal de trucs, même si c'est une gros tissu de bêtises, avant que ça se dilue et qu'on récapitule la machine avant que ça arrive au plus 5, ben, je peux affirmer qu'il y a beaucoup de choses qui restent et qui sont difficiles à changer. Donc tout ça pour dire, c'est que d'abord les policy officers sont très importants, c'est des acteurs au premier stade de l'élaboration. Après, bien sûr, viennent les directeurs, directeurs généraux, qui eux sont entre le politique vraiment et sont dans, sur le fond. Il y a toutes les agences dont on parlait, il y a les groupes d'experts, chaque DG a, enfin pas toutes, mais une grande majorité de directions générales créent des groupes d'experts, où justement parfois ils mixent en fait le monde économique, un peu universitaire, politique, pour faire émerger des tendances qui vont alimenter des textes à venir. Donc être dans ces groupes d'experts est fondamental. On n'a pas encore mené le travail, mais j'aimerais qu'on le mène, on l'a fait pour Business Europe, et Marie-Christine va nous en dire deux mots, parce que d'utiliser aussi dans les points d'entrée, on peut être soit en direct, soit grâce à des aides comme l'organisation Business Europe, qu'on a eu l'occasion de parler, mais je donne la parole à Marie-Christine en deux secondes. Mais ce qui est important, c'est que ces gens-là, dans ces comités, il faut impérativement de plus en plus qu'on ait l'opportunité de voir où on est. Et à la rigueur, ce ne sera pas le MEDEF, mais un représentant du MEDEF pour s'assurer que le monde de l'entreprise et des entreprises de France soit un peu pris en compte. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, il y a aussi les agences réglementaires, donc avec un contenu certainement très technique, mais qui est très important pour tous nos secteurs. Marie-Christine, si tu veux dire deux mots sur justement les alliances qu'on peut faire et comment on utilise Business Europe.
Marie-France, simplement un petit mot. Business Europe, c'est le MEDEF multiplié par 39 ou 40 organisations patronales. Pourquoi parler de Business Europe ? Je vais simplement vous donner un exemple. Un exemple qui, vous l'avez vu, il y a de multiples acteurs qui sont engagés dans les actions de l'ING. Donc, on l'a dit et je le répète, il est plus que nécessaire de créer des alliances. Et ces alliances, on peut les créer au niveau national, sectoriel, mais aussi au niveau européen et interpro. Par exemple, pour porter des arguments du secteur financier, hein, membre du MEDEF, nous les avons fait porter aussi par notre fédération européenne Business Europe, qui est donc interprofessionnelle. Comment ? Pas en essayant de vendre à Business Europe des arguments hyper pointu du secteur financier, non, simplement en disant au patronat européen, attention, ces textes qui sont hyper sectoriels vont avoir un impact sur les PME françaises, mais pas uniquement, sur l'ensemble des PME européennes et surtout sur leur financement. Voilà, donc, si je devais juste, quand même qu'on l'ait toujours à l'esprit, c'est un levier incontournable, Business Europe. Vous allez aussi, que ça fonctionne ou pas, peu importe, mais en tous les cas, par exemple au niveau social, parce que Business Europe est aussi partenaire social au niveau européen. Donc, c'est un levier qui est incontournable. Et si je regarde le résultat, on n'en a pas encore parlé, mais le résultat des actions de lobbying que le MEDEF a menées auprès de Business Europe, pour que lui-même soit aussi un acteur et porte le sujet. Sur le premier texte, on a eu gain de cause, et le deuxième, on en est juste au début. Donc, on tiendra au courant sur les prochains mois. Voilà.
Merci Marie-Christine. Donc, une fois qu'on vous a dit tout ça, bon, d'abord, j'espère que ça vous a un peu éclairé sur quelques points, surtout que c'était tout ce lobbying un peu de, comme je disais, de force de proposition, avec quand même une accroche de la commission qui doit être en fait votre quotidien. Souvent, les gens, quand on parle du lobbying, donc je vous disais, il y a le petit controvers, on parle des commissaires, il y en a beaucoup aussi qui parlent lobbying et qui parlent que Parlement. Je pense qu'il faut, on va y arriver là, on va faire un zoom conseil avec un exemple et un zoom Parlement, mais gardez en tête qu'en fait non, si vraiment il y a juste un fil rouge et si vous devez faire qu'un seul lobbying à Bruxelles, c'est quand même la commission, parce qu'on va le voir aussi bien quand on fait du lobbying au niveau du conseil que du Parlement. Bien sûr, on produit des choses, et quand on revient sur le trilogue, on aura l'occasion d'en parler, la commission a toujours un rôle à jouer, donc en fait la commission est toujours dans le panorama. C'est la valeur, voilà, la valeur sûre. Sur le fil rouge qu'il faut jamais perdre de vue. Et donc, c'est important qu'on construise. En tout cas, là, MEDEF, on construit beaucoup, beaucoup dessus. Donc, une fois qu'on a dit ça, on attaque le lobbying après la publication d'un texte. Donc là, on a normalement fait un boulot de dingue avant. Et donc là, c'est peanuts. La vérité, c'est qu'on a beau faire un boulot de dingue avant, on a quand même un texte qui ne nous va pas. Ah, là, c'est vraiment confirmé. Anne, dans sa chair, le confirme. Et donc voilà. Donc, on est au momentum de la co-législation. Le temps passe très vite. Donc, on va pas perdre trop de temps. Mais en un mot, donc, je vous l'ai dit, la publication avant la commission, vous vous souvenez hein, de ce schéma, il y a plein de choses, il y a des consultations. Anne a eu l'occasion d'en parler, des études d'impact, des auditions. Donc, tout ça, ce sont des jalons qu'il faut avoir dans sa feuille de route. Et quand la publication arrive automatiquement, en général, souvent suivant le programme de travail, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a jamais normalement de surprise. Souvent, les gens se disent « Oh là là, on n'avait pas prévu ce texte. Oh là là, ah, c'est dingue. » Qu'on me le dise quel texte on n'a pas prévu. Hein, parce qu'en général, entre la feuille de route, les programmes… les actualités, les Twitter de machin, les postures politiques, les communications, les... Franchement, voilà. Par contre, on n'avait peut-être pas prévu qu'il aille si vite, comme on a pu le voir sur Maquette Design. Et encore là, il allait vite pour la bonne cause. On ne va pas s'en plaindre. Qu'on ne savait pas que ça allait implaquer certains secteurs. Le MACF, c'est vrai qu'au début, c'était pour répondre à une certaine demande. On s'est rendu compte petit à petit, ils sont en train de nous faire un MACF. Donc, le marché d'ajustement carbone aux frontières. Donc voilà, donc là, il y a des choses à la marge qu'on peut ne pas avoir prévues. Et c'est pour ça d'ailleurs que plus on aura anticipé ce qui arrive, et plus on sera moins étonné quand il y a des petites sorties de route. Mais la route, elle est déjà tracée. Donc voilà. Et après, ça tombe dans les deux. Pauline, si tu veux nous dire deux mots sur le Conseil et le Parlement.
Oui, donc très rapidement. Donc une fois qu'il y a la proposition législative, donc naturellement, on va s'en saisir du côté du Parlement dans les commissions qui vont être spécialistes, entre guillemets, des sujets. Typiquement, une thématique qui est en lien avec le pacte vert, ça va probablement être la commission environnement qui va être au fond avec des commissions pour avis qui ont également un droit de regard et de proposition sur ce texte. Donc, il y a des échanges qui se font entre les commissions et ensuite un vote en plénière, donc avec tous les eurodéputés qui se prononcent sur ce texte. Dans le même temps, au sein des conseils, donc que ce soit de façon globale, donc le Conseil européen, où là, c'est plutôt d'orientation politique, et ensuite dans les conseils thématiques où là, il y a les ministres de chaque pays qui sont saisis des thématiques, par exemple environnement ou énergie, qui vont se réunir et parvenir à établir une orientation générale sur le texte. Donc, il va y avoir cette orientation du Conseil, ensuite le vote du Parlement, ce qui permet d'aboutir à une situation où on a trois positions différentes sur un même texte, donc la Commission, le Conseil, le Parlement, les négociations, donc les fameux trilogues dont Marie-France a parlé, qui vont ensuite s'enclencher. Et une fois qu'il y a un résultat de ces négociations, on repasse au vote, Conseil, Parlement, et le texte est adopté dans sa version finale.
Merci Pauline. En effet, ça c'est un petit rappel, mais différent avec justement les choses, les rapports d'initiative, les leviers en fait qu'on sait, parce que comme je dis, tout se sait et tout peut se savoir, parce que les rapports d'initiative par exemple, ils sont publics, les propositions législatives aussi, les commissions et qui se saisit des commissions aussi. Enfin bon, donc tout ça c'était pour vous donner un panorama. Ensuite, mais ce ne sera pas le propos de vous le présenter là maintenant, on vous a mis un slide pour l'influence au Conseil et l'influence au Parlement, en mettant un peu le biorhythme de chaque. Le propos, là, ce n'est pas de le voir, c'est plutôt de... Donc ça, vous allez les avoir hein, dans les slides. Alors, il n'y a rien non plus de transcendantal. Hein. On a essayé de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut leur apporter qu'ils ne sauraient pas. Mais en fait, je suis sûre qu'ils savent déjà tout ça, ou peut-être à la marge, j'espère qu'on vous amènera des choses. Mais ça peut au moins vous donner qu'il y a une sorte de checklist, en fait, à chaque étape, et donc ça peut aider. Mais si on rentre juste dans un cas pratique, prenons le cas du Net Zero Industry Act pour le Conseil. Le vrai sujet, c'est qu'on a bien vu qu'il y avait un push politique de regrouper un peu tout ça de manière cohérente. Donc, notre action, ça a d'abord été en interne de se dire, il faut vraiment qu'on regarde un peu ce qui est en train de se monter. Ça sera quoi notre narratif? On veut dire quoi? En quoi c'est bien? En quoi il y a des manques? Enfin, on a vraiment essayé de créer un débat, une valeur ajoutée en interne pour pouvoir apporter ces éléments dans le débat entre États et essayer de convaincre. L'action 2, c'était clairement d'identifier les acteurs français en charge du Conseil. Je veux juste revenir sur l'action 1, qui est quand même fondamentale à savoir. C'est que souvent, ces actions 1, ne perdons jamais de vue, on a eu l'occasion de le dire dans la session 1, dans la session 2, tout ça, ça se construit grâce à nos collègues thématiques, des pôles thématiques, qui animent des comités où il y a une matière de dingue qui émerge et plein d'entreprises, d'adhérents qui produisent en fait et qui amènent leur savoir-faire, leur savoir. Et c'est ce savoir qui retombe sur fiabilité des informations et qui fait la boucle de crédibilité du MEDEF à Bruxelles reconnue. C'est pour ça que je mets être reconnue, parce que ton conseil, c'est surtout ça. Les États, ils ont déjà la main sur toutes ces informations. Si on veut faire la différence, il faut qu'on soit reconnu. Or, le MEDEF, dans son DNA, grâce à nos collègues thématiques et aux adhérents, on a mais toutes les cartes pour être reconnu. Donc, c'est ça qu'il faut travailler.
Tu t'appuies sur tes homologues aussi, je suppose, des autres pays européens.
Alors, comme tu vois, là, quand on est justement après dans Action 2, les acteurs français, on cible quand même beaucoup les acteurs français sur des sujets comme ça, parce qu'on est quand même les entreprises de France. Mais dans l'Action 3, tu vois bien, en effet, qu'une fois qu'on s'est bien construit, on va dire franco-français, le petit village gaulois, ouais. On ne peut pas rester petit village gaulois, d'abord parce qu'il y a ces aéroports, et surtout, c'est qu'on voudrait faire des coalitions. Et c'est là où on commence à rechercher les coalitions avec d'autres patronats, Marie-Christine a eu l'occasion d'en parler, mais aussi avec d'autres RP pour voir leur positionnement. Et sur un sujet comme celui-là, clairement, il y a une volonté de compétitivité européenne qui est partagée. Donc normalement, on peut... Mais il faut adapter son narratif. On ne peut pas juste partir avec une position le lundi. Il se passe plein de trucs la semaine et pourtant, le vendredi, on a toujours le même narratif. Ça, ce n'est pas possible. Mmh. Un narratif n'est pas... Et c'est pour ça que je me bats en ce moment et je sais que je suis très accompagnée par les gens du pool et par l'équipe. C'est que vraiment, l'Europe ne peut pas se contenter d'un position paper qui soit statique. C'est chiant, ça demande beaucoup de travail, mais c'est nécessaire.
Et voilà. Comment tu fais, par exemple, parce que tu as besoin de savoir ce qui se passe aussi dans les différents parlements des pays européens, et pour justement avoir tes petites antennes un peu partout, et te dire, il y a texte loi qui est en train de... tel texte qui est en train d'émerger au Parlement allemand. Attention, ça pourrait après arriver au Parlement européen.
Donc, alors, alors moi, pour le coup, là, c'est pas trop chez moi. Enfin, en ce moment, on a un peu la tête plutôt à ce qui se passe à Bruxelles. Mais tous nos collègues des pôles thématiques ont un œil là-dessus. Et surtout, des instances, comme le disait Marie-Christine, comme Business Europe, sont un puits de coalition naturelle.
D'accord.
C'est-à-dire que quand les Allemands commencent à voir dans leur Bundestag là, qu'il y a un truc qui bouge, tout de suite, ils essaient de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Donc ça pour le coup, c'est une dynamique un peu de groupe. Mais que nous, à part européenne, on n'est pas les moteurs. Je pense que les pôles thématiques, fortement, sont impliqués là-dessus. Donc ça, c'est l'influence au Conseil, être reconnu pour pouvoir alimenter et permettre à notre État ou aux États qui acceptent de nous écouter d'avoir des éléments. Pareil pour l'influence au Parlement, vous avez des États par rapport au vote par rapport aux publications, tout ça. Mais dans un cas pratique aujourd'hui au Parlement, quand on vit le Parlement au quotidien, la personne qui en ce moment est en train de le vivre avec le pôle, avec l'aide du pôle numérique, c'est Marwan qui va nous parler très rapidement de son sujet fétiche qui est le Data Act.
Merci Marie-France. Donc effectivement, vous avez vu sur les slides que le Conseil a été mis en amont du Parlement, puisque souvent au Conseil, en fait, le groupe de travail qui va être en charge du dossier va être désigné beaucoup plus rapidement, il va aboutir rapidement aussi à une orientation générale du Conseil. Là où le Parlement européen sera, lui, plus souvent donc ralenti par deux grandes étapes, si vous voulez. Donc on a d'abord des étapes d'ailleurs qui ont tendance à se cristalliser dans le temps et à être applicables à chaque texte. D'abord, un conflit de compétences entre plusieurs commissions parlementaires qui vont tendance à de plus en plus avoir vocation à se saisir du sujet. Et deuxièmement, une fois que ces commissions seront désignées, la désignation des rapporteurs au sein même de ces commissions. Alors, est-ce que cela signifie donc qu'il faut attendre, être attentiste et attendre donc la désignation des rapporteurs pour pouvoir commencer à enclencher les actions? Bah, pas du tout, puisque là aussi le maître mot, ça va être l'anticipation. Donc, dans le titre d'ailleurs, on aurait pu mettre anticiper et suivre le rythme du Parlement, puisque effectivement la sphère bruxelloise, c'est une grosse machine qui est assez lente, mais au Parlement, si vous voulez, il y a une multitude de sortes de microcosmes par texte qui vont extrêmement rapidement. Donc, comment anticiper ce process au Parlement? D'ailleurs, ça sera effectivement le plus le cas dans le cadre d'une stratégie défensive comme vous l'a présenté tout à l'heure. Et c'était effectivement le cas pour le Data Act, puisque c'était un texte qui, certes, était attendu par l'industrie, mais qui, dans deux dimensions, a un peu, si vous voulez, mis un coup de pied dans la fourmilière, puisque sur son champ d'application, il avait vocation à s'appliquer à toutes les données. Donc même les secteurs qui s'attendaient à un tel texte de partage des données, en fait, si vous voulez, ont été un peu choqués quand ils ont entendu, par exemple, que des données relatives à des senseurs de sécurité devaient être partagées. Mais aussi, des secteurs qui ne s'attendaient pas à se voir imposer des obligations de partage des données ont été impactés par le Data Act. Donc, comment maîtriser ce temps? Eh bien, comme je vous l'ai indiqué tout en bas sur le règlement pour les données, ça sera à travers les coordinateurs. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'un coordinateur? Puisque peut-être que la plupart d'entre vous le savent, mais donc c'est d'abord un représentant de son parti politique, puisque dans chaque commission parlementaire, un coordinateur, enfin, le parti politique va désigner son coordinateur qui va être en charge de coordonner, comme son nom l'indique, le message du parti politique sur tous les textes qui seront étudiés par la commission. Mais c'est également un véritable travail, si vous voulez, procédurier, puisqu'il va assister le président et le vice-président de chaque commission, donc pour notamment désigner les rapporteurs. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, puisque si on veut agir en anticipation, le but dans un monde idéal, ça sera de pousser ses coordinateurs, si vous voulez, à premièrement désigner le parti politique qui nous convient pour désigner le rapporteur. Puisque c'est sûr que si on a un rapporteur en charge d'un dossier qui est de l'extrême gauche et que l'on veut plutôt pousser des messages pro-innovation, ça sera un petit peu compliqué. Et donc la deuxième étape, ça sera une fois que le groupe politique qui va désigner le rapporteur sera désigné, de pousser pour que ce groupe politique justement désigne un rapporteur qui, sans être forcément un grand ami par exemple du MEDEF, sera au moins connu pour son écoute des acteurs économiques. Voilà.
Donc, merci Marwan. Marwan, je sens que tu es parti pour faire un tour sur le Parlement européen là. Alors, c'est pas que c'est pas intéressant, qu'on soit bien clair, surtout que tu fais ça. Je sais pas ce qu'en dit notre public, mais moi je te trouve super passionné. Ah, il y a des
questions shadow rapporteur.
Voilà, c'est ça. Donc, moi je te propose. Alors, grâce à toi, Marwan.
Une session, voilà, on a gagné une session en plus.
Tu as gagné une session, Marwan. Rien que pour toi sur le Parlement. C'est pour dire quand même, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, je sais pas ce que dans votre
côté. Non, c'est pas mal.
D'accord. Alors, non mais franchement, je suis désolée, en fait, on a été trop long avant, donc là, on est en train de te couper l'arbre sous le pied, mais je pense que l'important, c'est qu'en effet, je pense qu'en écoutant Marwan, je me rends compte que le Parlement en lui-même mérite une séance. Mmh. Le Parlement européen, c'est quoi? Parce que comme je disais, il ne faut pas se perdre de vue, la Commission reste le lobbying logique, mais c'est un lobbying assez linéaire. On va voir une personne, on va voir qui tient le stylo, et puis grosso modo, voilà, ça se gère. Le Conseil, c'est assez binaire également. Même si vous mettez les 27, vous avez 27, mais 27 organisations à l'identique. Quand on commence à parler Parlement, et là, Marwan vient de le faire avec beaucoup de talent, mais ça demande quand même un peu plus que 3 minutes montre en main, quoi, je pense. Donc, Marwan, je te laisse conclure sur peut-être une ou deux idées que tu voulais absolument faire passer aujourd'hui, et sinon, je te propose qu'on continue.
Non, mais voilà, le message clé, c'était vraiment que c'est vrai qu'on connaît beaucoup les rapporteurs, les shadow rapporteurs, mais il faut vraiment insister sur les coordinateurs. Là, je vous invite d'ailleurs à aller voir le site d'une ONG qui, si vous voulez, note l'influence au Parlement par pays. C'est Vote Watch Europe. Voilà. Et donc, dans ce classement, on voit que la France n'est pas forcément la plus influente puisqu'elle est surpassée par les Allemands, les Espagnols et les Portugais. Et donc là, on voit que, encore une fois, clin d'œil à Marie-Christine, l'importance des coalitions avec les autres pays, effectivement. Là encore, en fait, ça va être anticipé. Et c'est aussi la question de la crédibilité, voilà. Puisque si le lobbyiste, en fait, a été présent dès la construction du texte et ensuite a été le premier à proposer ses solutions et ses modifications, il sera d'autant plus crédible à ajouter ces éléments jusqu'à la fin du process et jusqu'au trilogue que Margot d'ailleurs va présenter juste après moi.
Alors, juste un dernier point, le rapporteur, tu l'as effleuré, mais en effet, le choix du rapporteur n'est pas un choix innocent. Et c'est d'autant plus vrai dans le dossier du diligence que Margot, dont Margot va nous parler là en même pas 30 secondes, ce qui va être vraiment un challenge en soi quand on connaît la complexité du dossier. Mais je pense que là, on vient d'acter qu'on avait une séance Parlement. Et juste pour la personne qui demandait un shadow rapporteur, c'est qu'en effet, dans le jeu de pouvoir, en plus, le Parlement, c'est d'autant plus compliqué, c'est qu'ils essayent à chaque fois de reprendre tous les partis dans les équilibres politiques venant de l'élection. Et donc, à chaque fois que vous avez un qui prend la tête de quelque chose, donc le rapporteur, vous avez automatiquement pour les autres partis politiques un shadow rapporteur, un rapporteur fantôme qui, en fait, est supposé vérifier que le rapporteur, machin, et ils ont quand même un rôle à jouer. Mais tout ça, on vous l'expliquera dans une séance dédiée où Marwan sera la star. Et comme ça, ça nous permettra de rentrer plus dans les détails. Et désolé si vous attendiez beaucoup plus d'éléments tout de suite. On a mal géré notre temps. Margot, donc le chlore, allez, on va clore le sujet là, allons-y.
Effectivement, en quelques minutes, donc une fois que le Conseil et le Parlement ont voté leur mandat de négociation, arrivent les réunions de trilogue, qui sont des réunions tripartites où on a toutes les institutions autour de la table avec chacune une équipe de négociateurs. Donc on va avoir des trilogues politiques, des trilogues techniques. Il n'y a pas un nombre défini hein, de réunions de trilogue, on va jusqu'au bout, jusqu'à aboutir à un accord final. Parce que, comme le disait Pauline, on a trois versions du texte, hein, la version de la Commission, la version du Parlement, la version du Conseil. Et l'objectif, c'est de remplir la colonne tout à droite pour arriver sur l'accord final. Et une fois que cet accord final est trouvé, il est ensuite revoté, comme le disait Pauline, au Parlement et au Conseil. Et donc nous, on travaille actuellement sur cette phase-là avec la directive sur le devoir de vigilance, où on a pris toutes les versions des textes existantes. On a de ces versions listé nos priorités et nos lignes rouges. On a fait notre propre tricolonne et c'est ce tricolonne qu'on va aller apporter après à toutes les équipes de négociation, aussi bien Conseil, Parlement que Commission, pour essayer d'avoir le texte le plus adéquat possible à la fin.
Et ce tricolonne, on l'avait construit au tout début, il s'est passé plein de choses, il y a eu plein de négociations et le travail de toutes les équipes pour les thématiques, le pôle thématique et le nôtre, c'est justement d'adapter le narratif par rapport à ça. Donc voilà, donc beaucoup de travail. On finit un peu en queue de boudin là parce qu'on est très rapide. La dernière chose, c'est que ne pas oublier, mais ça je crois que je l'ai déjà dit, donc on va le passer, c'est que et la commission dans le trilogue, ne pas croire qu'elle n'a pas de rôle à jouer. Quand on est, donc la commission a proposé, elle laisse les deux autres institutions se débattre un peu de leur position, mais il ne faut pas croire qu'elle reste attentiste, pas du tout. Elle suit tous les débats, elle est dans toutes les réunions de trilogue, elle arbitre, et surtout on peut encore l'attraper et lui donner des éléments qui du coup peuvent potentiellement la faire basculer d'un côté à un autre. Et le meilleur exemple que moi j'ai connu, c'est la directive Alternative Fuel Infrastructure, où clairement on avait le Parlement qui avait été complètement phagocyté par les Allemands. On avait réussi à mettre le doute au Conseil et on avait complètement réussi à tourner la Commission en disant qu'une seule technologie n'était pas possible sur les véhicules électriques. Et au bout du bout, le Parlement était prêt à lâcher sa posture. Le Conseil s'en est saisi rapidement, aidé en cela par la Commission. Donc c'est un jeu à trois qui peut très bien, selon le texte, s'instrumentaliser. Donc ne jamais lâcher la Commission. Voilà. Alors, pour finir, en pratique, donc, le lobbying, une affaire de process, un process d'identification, on l'a dit, d'acteurs, de levier de rencontre, identification à chaque instant des étapes du processus, des messages adaptés selon l'auditoire, mais aussi un process de communication. La visibilité est très importante. Donc, il faut faire des événements, il faut avoir des communications groupées, on l'a vu, avec d'autres acteurs, il faut faire de la communication très pédagogique, des infographies, ce genre de véhicule, on va dire, et de la communication, bien sûr, directe, comme les lettres ouvertes aux eurodéputés, des tribunes que je prends au Bézieux fait de temps en temps. Bon, voilà, tout ça pour vous dire que c'est des actions tout moment qui sont très diverses. Maintenant, je crois qu'il y avait une ou deux questions. Une question sur le domaine de la sécurité.
Exactement. Voilà. Notre entreprise intervient dans le domaine de la sécurité privée. L'échelle européenne vous semble-t-elle opportune en matière de lobbying?
Alors, tous les sujets...
J'ai répondu.
Comment?
Juste Marie-France, j'ai répondu par écrit, en marquant...
Ah, alors on va voir avec intérêt ce que Marie-Christine a répondu.
Marie-Christine a mis, merci Marie-Christine, a précisé qu'il existait une fédération européenne.
Oui, tout à fait, Yann. Alors,
dont le membre français est le GES.
Absolument, mais du coup, pour répondre plus, oui, il y a du lobbying en Europe qui peut se faire, puisque ce métier que je ne connais pas plus que ça, mais à mon avis, concerne certainement les conditions de travail, va certainement concerner l'accès aux données, parce que je présume que dans la sécurité, il y a la manipulation peut-être de codes, d'informations personnelles de personnes, enfin je ne sais pas. Donc, tout ça pour dire, c'est que c'est vraiment rare. Je n'ai pas connu de secteur à ce jour, mais je suis prête à relever le défi si quelqu'un le fait, qui n'est pas, même à minima, à un texte qui le concerne, peut-être pas directement dans son business, mais dans un écosystème. Je ne vois pas, c'est juste pas possible, ça traite de tout l'Europe. Donc, ma réponse est oui. Si vous voulez en savoir plus, on se parle et on voit un peu que je comprenne mieux votre business avec l'équipe. Et comme le disait Marie-Christine, en plus, il y a première vue, s'il y a une fédération européenne, c'est que certainement il y a des sujets. C'est un indice, comme dirait Sherlock Holmes. Donc, on est à votre disposition pour en parler plus longuement. Il y avait une autre question.
Il y a une autre question concernant le lobbying auprès des autres États membres. Comment articulez-vous votre lobbying vis-à-vis des MEDEF territoriaux et régionaux?
Ah, alors ça aussi, c'est une très bonne question. Alors, aujourd'hui, donc, moi, depuis que je suis arrivée, j'avoue qu'on est très centré France et qu'on essaie d'associer les régions et les MEDEF territoriaux quand, on va dire, c'est des borders avec des pays où on a. On fait des forums diplomatiques où on essaie d'inviter à chaque fois les présidents et DG des MEDEF qui sont frontaliers avec nos amis italiens, nos amis allemands et espagnols. Mais je pense qu'il y a mieux à faire et surtout, je sais que Marie-Christine on a le CDPF, le Centre des délégués permanents français, qui regroupe un peu tout ce qui se fait de français à Bruxelles et dedans les régions, là les régions pas MEDEF, mais les régions sont représentées et il y a des passerelles qui se font assez régulièrement. Et pour la petite info, je donne l'actualité de Marie-Christine. La dernière, là, c'est qu'on reçoit, Marie-Christine a fait un programme pour la Nouvelle-Calédonie et récemment pour la Martinique.
Oui, les Outre-mer, les départements d'Outre-mer et les territoires d'Outre-mer qui viennent demain à Bruxelles.
Voilà. Et donc, on organise dans ces cas-là, selon les sujets qui veulent le discuter, on leur fait rencontrer. Et là, on l'espère, enfin, ici, on fait un programme où on espère que, enfin, je l'ai vu, il est très bien. Donc, voilà. Donc, ça montre qu'il y a plein de gens à rencontrer. Parce que, comme je vous disais, la diversité d'acteurs peut être des opportunités. Oui, c'est des opportunités. Là, il y a des idées qui émergent, des gens à rencontrer que, naturellement, d'ailleurs, on n'aurait pas rencontré s'il n'y avait pas ce déplacement. Donc, c'est aussi intéressant et on se nourrit les uns aux autres. Et ça, c'est quand même la force du MEDEF. C'est sa diversité. Au même titre que la diversité des acteurs européens est une opportunité, la diversité du MEDEF aussi.
D'ailleurs, tu peux peut-être.
Bonjour, excusez-moi.
Excusez-moi,
c'est moi qui ai posé la question, je suis Myriam Diallo. C'était juste que je parlais du MEDEF local, du MEDEF des autres pays, pas des MEDEF territoriaux.
Les BDI, Myriam, tu parlais des BDI.
Alors, en Allemagne, quand vous faites du lobbying auprès du Conseil des autres États membres, enfin, les RP et tout ça, comment vous articulez votre action vis-à-vis de vos homologues?
Non, mais c'est une question extrêmement pertinente parce que figure-toi que de fait, on approche très rarement la RP allemande. Moi, j'avoue que la RP espagnole, c'est parce que j'ai gardé de très bons contacts, mais sinon, en tant que MEDEF, on va éviter les gros où il y a les gros MEDEF nationaux. Par contre, nos amis, par exemple, des Pays-Bas ou nos amis suédois et autres, à la rigueur, aiment bien, on les prévient et on peut y aller même ensemble si on est d'accord sur le sujet ou pas. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'y aller, mais on est précautionneux sur le format et comment on y va. Et on essaie de faire, grâce à Business Europe, comme l'a dit Marie-Christine, de toute façon, on est bien au courant des positions des uns et des autres. Si on peut démouler d'abord avec nos collègues avant d'aller… j'apprécierais moyennement, c'est mieux qu'ils débarquent tous à la RP française pour dire des trucs contraires à ce que je leur dis, quoi.
Et après, il y a des rencontres un peu plus politiques, régulières, entre les présidences.
Bien sûr. Voilà. Et quand on va dans un pays, par exemple, on a organisé avec la FEP la visite à Madrid. Clairement, on l'a fait avec le MEDEF espagnol. On les a mis dans la boucle, ainsi que l'ambassade de France en Espagne. On essaie d'être extrêmement transparent et linéaire, comme ça au moins il n'y a pas de crispation par rapport à une prise géographique.
Et je mets un peu les pieds dans le plat. Je veux savoir pourquoi au final, parce que les objectifs peuvent être les mêmes, les intérêts peuvent être les mêmes également, avec les patronats allemands, avec le patronat espagnol.
Parce que chacun a une relation privilégiée avec son gouvernement quand même, qui est liée aussi à des discussions nationales sur d'autres sujets, tu vois. Donc, il ne faudrait pas crisper ou intervenir dans la relation entre un patronat et son gouvernement. Voilà, généralement, la première chose qu'on fait, c'est qu'on échange sur le projet, le texte, le thème, et on voit si tout le monde autour de la table, à Business Europe, est sur la même ligne. Voilà. Est-ce qu'on est tous d'accord? Si on n'est pas sur la même position, alors on peut, nous, Français, aller voir le gouvernement allemand, parce que le patronat allemand va avoir une position différente en leur disant, voilà. Mais si on est tous, enfin, en tous les cas, enfin, je parle pour le sujet que je suis plus particulièrement, sur la même ligne, vraiment en poussant les mêmes arguments pour aboutir au même objectif, alors généralement, on les laisse dans une relation privilégiée avec leur gouvernement.
D'accord. Donc, il y aura aussi un cinquième webinaire sur la diplomatie économique en Europe.
Je sens qu'ils vendent son truc, là. Déjà qu'on s'est fait avoir Marwan qui passera dans mon bureau. Est-ce qu'il y a d'autres questions, sinon?
Non, je ne veux pas d'autres questions, à part des questions qui parlent justement du fonctionnement du Parlement. On va laisser ça à Marwan pour tout ça.
Non, mais merci à toutes et à tous.
C'était un podcast de l'Académie. Nous tenons à remercier les collaborateurs du MEDEF qui ont œuvré à sa réalisation, ainsi que l'ensemble des intervenants. Retrouvez de nombreux autres enregistrements sur le site l'academiemedef.fr. Merci pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt.